Bientôt à table.
À vos papilles. Prêt ? Savourez.
Mais qu'est-ce que j'aime présenter cette émission ? Je suis en train de déguster ce qu'on appelle un solid coffee. Donc c'est un... En fait,
ah, c'est bon, c'est tout.
On pense que c'est... Oui, mais c'est pas pour vous.
C'est pour les autres.
Je vous ai déjà dit que je mangeais pas de sucre le matin.
On dirait une tablette de chocolat, mais en fait, il n'y a pas un gramme de fèves de cacao, sauf du beurre de cacao.
Tout à fait.
Mais c'est du café.
Tout à fait.
C'est extraordinaire, mais c'est la première fois que je goûte ça.
Eh bien, je ne vous dirai pas laquelle de nos collègues est associée dans un business qui fait ça. Tiens.
Comme il est petit.
Voilà.
Bon, c'est
vous
pas grave.
Vous pouvez chercher.
J'aurai quand même son nom. Fabrizio, c'est oui. À vous, on parle de science.
Oui.
Et des mystères de l'eau dans notre tambouille. Aujourd'hui, on va démarrer tout cela avec l'eau qui fait siffler la bouilloire.
Sophie. C'est une astuce de la science, parce que quelque part, l'eau fait du bruit dans la bouilloire avant de bouillir. Et d'où vient ce bruit, donc, qui n'est pas dû au
rue,
vu que ça ne boue pas. Non, avant de bouillir.
Ah, okay.
Donc, vous pouvez mettre l'eau dans une casserole, ça fait un bruit avant que ça ne soit en ébullition. Eh bien, la science a levé le mystère, les amis. Il s'agit de minuscules poches de gaz qui sont contenues dans l'eau et qui, au fur et à mesure que l'eau chauffe, reçoivent plus d'énergie. Alors, la physique impose qu'un gaz chaud monte et ces micro-poches de gaz suivent donc un mouvement ascensionnel. Jusque-là, logique, logique, Monique. Et à un moment donné, elles arrivent et elles meurent à la surface. Et cette chose a reçu un nom, ça s'appelle la cavitation. La cavitation, c'est donc l'éclatement des bulles de gaz avant l'ébullition. C'est la fameuse musique de la bouilloire ou même de la casserole. Alors, la cavitation, c'est en quelque sorte le décès des bulles de gaz. C'est le cimetière des éléphants du gaz, si vous voulez. Alors, pour la petite histoire, c'est absolument pas dangereux, parce que les gaz qui sont contenus dans l'eau sont majoritairement les gaz de l'atmosphère terrestre. Donc, le chant de l'eau, c'est pas le chant des sirènes dans l'eau.
Et c'est là que, Fabrizio, grâce à vous, votre science, j'ai une illumination et je tente une comparaison. Est-ce qu'y a-t-il un lien avec le lait qui déborde?
Carlo, vous avez 100% raison, bien sûr. C'est totalement le lien. Parce qu'en fait, on raconte souvent que le lait qui déborde, c'est dû à la crème du lait. Alors, c'est vrai, si vous voulez, mais c'est quand même pas à 100% vrai, dans le sens que c'est pas toute l'histoire. En fait, le lait contient aussi du gaz dissous, exactement comme l'eau. Alors, jusqu'ici, tout va bien. Donc, bien sûr, c'est ici que les Romains s'empoignèrent. Parce que les gaz du lait voudraient bien sortir à l'air libre et chanter leur petite chanson. Et pas de bol, la crème les empêche de mourir à la surface, comme Dieu commande ou commanderait. Alors, ces bulles de gaz s'accumulent donc sous la strate de crème et elles font mousser la crème, un peu comme la crème de l'expresso, quasi. Et le lait se met à déborder. Alors, cette affaire se passe en un coup. C'est brutal. En fait, il y a une température seuil. Et quand on dépasse ce seuil, la crème se remplit de vapeur, elle mousse bardaf, c'est lombardé. Alors, il y a une astuce de grand-mère que vous connaissez sans doute, sûrement Carlo, Sophie, vous la connaissez, qui consiste à casser la mousse et à permettre aux bulles de gaz de s'échapper. Il suffit de poser une cuillère en bois, par exemple, sur la casserole. Alors, quand la mousse attend et la spatule, plaf, elle se décompose et le gaz s'échappe, la mousse n'est plus mousse et le tour est joué.
Et ça moule, ça marche quand l'eau des pâtes boue?
Ah, ça dépend. Quand l'eau des pâtes boue, ça c'est autre chose. Ça c'est de la vraie ébullition. Ça c'est pas.
Donc ça sert à rien de mettre la.
L'ébullition, c'est l'ébullition. Ici, on est sur ce qui se passe avant l'ébullition, sur la cavitation.
D'accord, chef. Bon, il y a d'autres secrets concernant
ça,
l'eau.
Ça, j'en ferai une autre fois.
Voilà.
Parce que j'ai aussi cette question, puisqu'on parle des pâtes et il nous reste plein de temps. On peut souffler sur la mousse qui. Oui, mais c'est autre chose.
C'est autre chose.
On en parle une autre fois.
Un autre petit secret de l'eau en cuisine.
Oui. On pourrait écrire un livre là-dessus. On va sans doute le faire avec Carlo et vous, Sophie. Donc voici une question, par exemple, qu'Enrico Fermi, le physicien italien qui a eu même un prix Nobel, posait à ses étudiants. Il leur demandait ceci. Quand on cuit un aliment dans l'huile, il était italien, donc le Fermi, ça fristouille. Tout le monde pense que c'est l'huile qui boue. L'astuce, c'est qu'à la température où ça fristouille, la casserole devrait aussi quasi fondre si c'est l'huile qui boue. Comment cela se fait que l'huile boue, mais la casserole ne fond pas? En vérité, c'est de nouveau l'eau. En vérité, c'est pas l'huile qui fristouille, c'est l'eau des aliments, l'eau qui se trouve à l'intérieur des aliments, qui se met à bouillir, à s'évaporer, à bruter et à fristouiller. Même le pain sec de chez Sec contient 15% d'eau. C'est sec, mais c'est humide. Et quand vous mettez du pain sec dans l'huile pour faire un petit apéro maison, un peu sur le pouce gouttu, on rajoute un peu de sel, c'est super bon. Eh bien, quand ce petit pain sec se met à fristouiller, c'est en vérité l'eau du pain sec qui fristouille. C'était d'ailleurs le truc que m'avait donné chez ma maman pour savoir quand l'huile était suffisamment chaude. On jetait dedans quelques brisures de pain et quand ça fristouillait, on y allait. Quand il faut y aller, il faut y aller.
Mais Fabrizio, et quand dans la solitude morne et triste de ma maison, alors que même les chiens sont partis et que je décide de me chauffer une lasagne au micro-ondes, le micro-ondes, qu'est-ce qui se passe?
Ben Carlo, c'est toujours l'eau, hein, le micro-ondes, dans le sens, c'est les micro-ondes, mais c'est l'eau qu'elle met en action. Parce que le micro-ondes utilise une autre propriété des molécules d'eau qui est le dipôle. Les molécules d'eau sont chargées plus d'un côté, chargées moins de l'autre côté, et bien sûr, au total, ça s'annule. Hein. Sinon, quand vous prenez une douche, vous prenez une décharge, et c'est pas tout à fait pratique. Alors, les ondes du micro-ondes vont faire pivoter les molécules d'eau en les attirant par le côté chargé, et avec cette rotation, tac, 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 ce spin, si vous voulez, très rapide, l'eau reçoit de l'énergie cinétique et elle chauffe. En vérité, le micro-ondes ne chauffe pas les aliments, il chauffe l'eau à l'intérieur des aliments. Okay. Ensuite, par conductivité, c'est-à-dire de proche en proche, si vous voulez, tout l'aliment se chauffe. C'est pour ça aussi que si vous mettez un bol d'eau au micro-ondes, par exemple, dans une tasse en porcelaine, et si vous le laissez pas trop longtemps, vous pouvez sortir le bol à la main sans vous brûler, alors que le liquide est brûlant. Parce que c'est la tasse n'a pas eu le temps de chauffer par conductivité. Évidemment, si vous attendez trop longtemps, le liquide va chauffer par contact la tasse et vous êtes chocolat bleu pâle. Alors, il y a un dernier phénomène à faire attention, hein, c'est la superchauffe. Dans le micro-ondes, l'eau peut monter en température et dépasser les 100 degrés officiels. C'est la science qui le dit. Mais l'eau, tout en étant au-delà de 100 degrés, ne se met pas à bouillir. Elle est en superchauffe. Vous allez sortir le bol et pas de bol, l'eau se met à bouillir. Because vous l'avez gigoté, c'est saisissant, poil aux dents et ça Lucas.
Harold se demande où il est tombé. Mais je vous présente.
Mais ça me parle beaucoup parce que
c'est intéressant quand même.
Bien sûr, et on parle vraiment donc de cette agitation moléculaire de l'eau.
J'adore l'agitation moléculaire.
Et ça marche aussi bien avec le thé. C'est pour ça qu'on dit de pas venir avec des températures d'eau trop élevées pour le thé vert, pour pas avoir de l'amertume.
Mais justement, là vous me lancez une jolie perche. La température de l'eau pour la torréfaction d'un café, c'est important.
Tout à fait. Surtout pas pour la torréfaction, mais pour l'extraction ou pour l'infusion, effectivement, ça a son importance. Et je l'adapte en fait en fonction de la couleur de torréfaction. Mmh. Si un café est déjà torréfié très fort, finalement, son potentiel d'extraction est déjà presque atteint si on a torréfié beaucoup. Ouais. Donc, je n'irai pas avec une température d'eau trop élevée pour pas accentuer l'âcreté.
Comme pour le thé,
café.
Finalement.
Exactement.
Il y a une question qui nous est parvenue qui était assez intéressante. Je ne la retrouve plus, mais je vais la dire de mémoire. Des auditeurs qui se demandaient s'il existait des petits sachets de thé qui deviendraient petits sachets de café pour les faire infuser.
C'est une bonne question. Nous, on le fait pour ce qu'on appelle le cold brew.
Infusion à froid.
Tout à fait. Voilà. Donc, on met des sachets de thé remplis de café, on met ça au réfrigérateur et le lendemain, on a un cold brew.
Mais donc, ça voudrait dire que si on a la petite boule en métal pour le thé, on pourrait y mettre du thé? Du café, pardon.
Oui, mais souvent la granulométrie risque de quand même laisser un peu fouiter un peu de matière. Bon, après, si
ou alors on moue gros, si on a un petit moulin à la maison.
Plus gros, effectivement.
Et le cold brew l'été, c'est vraiment fantastique.
C'est top. Ouais. Et un petit conseil qui marche très bien avec du tonic water aussi.
Ouais. De l'eau du tonic.
Ah, carrément.
Faire un petit cold brew tonic avec ou sans alcool.
L'espresso martini sans alcool, quoi.
Exactement.
Bon, ben voilà, les amis, Corica, on peut les déguster, vos petits cafés, où ça, les amis, Marie-Emerine, Emrance. C'est rebaptisé. Il y a beaucoup d'adresses en fait à Bruxelles quand même où ils nous font confiance pour les restaurants.
Non mais le petit où on peut aller se poser.
Ah alors chez nous déjà dans le centre-ville pour l'expérience complète.
On est où exactement?
Rue Marché aux Poulets 49, pas loin de la Grand Place.
Ok.
Oui tout à fait. Là si vous voulez nous voir travailler vraiment torréfier, on torréfie presque tous les jours.
Waouh, génial.
Et alors on a notre boutique à Overace aussi.
Ok.
Où c'est plus showroom. On a plus le temps aussi d'expérimenter les machines avec les clients, voir exactement ce qu'ils veulent.
Et bientôt une troisième boutique surprise. Merci beaucoup Harold et Marie.
Merci beaucoup.
Emrance.
C'est ça.
Je me suis pas trompée. Fabrizio, on se retrouve le mois prochain.
On se retrouve le mois prochain.
Oui, vous savez, on va s'intéresser aux pâtes. J'ai envie qu'on parle de pâtes et de science.
Ah, écoutez,
je suis sûre qu'il y a plein de choses à en dire. Et vous, Carlo, on se retrouve la semaine prochaine. Rencontre avec une anthropologue, ethnologue. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire? Figurez-vous que la science de l'anthropologie nous apprend tant et tant de choses sur nos habitudes alimentaires, sur notre rapport au monde, à la politique, à la géopolitique. C'est tout à fait passionnant. passionnant. Merci beaucoup à Andrea qui réalisait cette émission. Les amis, je vous rappelle que vous retrouvez évidemment cette émission en vidéo et en podcast sur ovio.be, la plateforme RTBF qui cartonne sa race, comme dirait l'autre, et puis sur toutes les plateformes podcast, bien entendu. Bon week-end à tous.
Au revoir.
Et à samedi prochain.